chercheurs belges ont découvert cette semaine trois exoplanètes potentiellement habitables. Leur article, en tout cas, est paru cette semaine dans la revue Nature. C'est le résultat le plus enthousiasmant de ces 10 dernières années, d'après le professeur Didier Queloz, interrogé dans Le Temps mardi dernier. Planètes potentiellement habitables. Ce soir, dans Forum, on va s'interroger sur la façon dont ces découvertes scientifiques nourrissent notre imaginaire, mais aussi la fiction. Deux invités nous rejoignent. François Skuyten, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un monument de la bande dessinée belge, auteur notamment de la série fantastique Les Cités Obscures avec Benoît Peters. Et Marc Attala est aussi avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la maison d'ailleurs à Yverdon-les-Bains. Marc Attala, est-ce que ces exoplanètes potentiellement habitables, c'est le genre de découverte qui nourrit nos fantasmes?
Oui, ça nourrit nos fantasmes, évidemment. Bon, déjà parce que une grande partie de nos fantasmes attendent, en fin de compte, ont été projetés dans l'espace une fois que la Terre était finalement complètement connue, ou quasi complètement connue, depuis les années 1920 à peu près, avec l'importance des découvertes astronomiques fin 19e, début du 20e siècle, on a commencé à projeter notre imaginaire, nos attentes, nos espoirs, nos peurs aussi, vers les autres planètes, quand on s'est rendu compte surtout de la dimension, de la taille gigantesque de l'univers. Alors évidemment, quand on a une découverte comme ça qui apparaît, des planètes habitables, à s'entendre ce que veut dire habitable, alors automatiquement, la question qui se pose, c'est par qui? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces gens vont venir? Est-ce qu'on peut aller là-bas? Est-ce qu'il y a des contacts possibles, etc.
François Skuyten, pour vous, est-ce que cette découverte d'exoplanètes potentiellement habitables, c'est une source d'inspiration pour la création?
Oui, beaucoup de choses qui sont de l'ordre du domaine scientifique, des choses comme celle-là, mais bien d'autres, sont une source perpétuelle. L'imaginaire est terrible s'il ne s'occupe que de justement de ses rêveries. Il a besoin de se nourrir, il a besoin d'être en tension constante avec justement ses recherches, ses découvertes. Et ce que font les scientifiques, ce sont des aventures qui sont tellement porteuses de ce qui nous nourrit on est en lien constant. En tout cas, moi personnellement, je dois avouer que je dévore ce genre d'informations.
On dit pourtant que l'imaginaire n'a pas de limite, François Skuyten. Donc pourquoi faut-il absolument puiser dans la réalité, dans la recherche scientifique?
Parce qu'elle est toujours plus étonnante, plus belle, plus surprenante que tout ce qu'on pourrait imaginer. La réalité, on le dit souvent, dépasse la fiction. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les chercheurs, ce sont des raconteurs. Ils rêvent. Il y a une part d'imaginaire dans leurs recherches, dans leurs intuitions, qui permet justement d'incliner, de diriger leur travail. Et inversement, nous avons besoin de cette dimension-là pour nous réinventer.
Marc Attala, vous avez aussi ce sentiment que les scientifiques sont des rêveurs. En fin de compte, on a l'impression là qu'on est en train de bâtir un pont qu'on n'imaginait pas forcément entre des gens extrêmement rationnels, extrêmement analytiques, et puis des rêveurs. C'est assez étonnant.
Oui, je dirais plus que des rêveurs. Je reprendrai le mot utilisé par François Skuyten, que je profite de saluer puisque je l'entends maintenant, alors que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était par email. C'est des raconteurs.
Voilà, c'est fait.
C'est-à-dire que des raconteurs, je pense que c'est le bon terme. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que la science, au-delà de la perception, de la compréhension des phénomènes, c'est aussi la manière de tisser une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire du cosmos, c'est l'histoire de l'humain dans la Terre, dans le cosmos, etc. Il faut oublier que dans les histoires, il y a un début, le Big Bang, si on prend l'aspect astrophysique, puis il y a une fin, alors qu'on l'appelle le Big Crunch ou autre. Et puis dans cette histoire se déroule la vie humaine. Or, l'avantage d'une histoire, c'est qu'elle donne du sens. Soudainement, on sait d'où on vient, on sait où on va. Alors, là, on peut débattre sur la question de l'astrophysique. Le Big Bang, ça nous donne pas beaucoup d'informations sur d'où on vient. Le Big Crunch, dans 25 milliards d'années, ça nous donne pas tellement non plus d'informations où on va, mais ça donne cette impression qu'on raconte une histoire dans laquelle nous avons une place, puisque nous sommes capables de la raconter. Et les scientifiques, en particulier, sont capables de la raconter. Et c'est dans cette espèce de fonction de raconter, donc on pourrait appeler une fiction, nous, aujourd'hui, cette découverte vient rajouter, on va dire, la page suivante, la case suivante pour un auteur de BD.
La fiction se nourrit de la réalité, mais lorsqu'on voit, par exemple, cette découverte d'exoplanètes, Marc Attala, des traces de vie chimique pourraient exister en dehors de notre système solaire, ça fait pas tellement rêver, on parle plus du mythe des petits hommes verts.
Non, l'imaginaire est beaucoup plus coloré et beaucoup plus fantasmatique finalement que la réalité, qui peut être des fois un peu déceptive. C'est-à-dire un des grands reproches qu'on a fait à la science, c'est de désenchanter le monde, hein, c'est-à-dire de revenir à des choses qui sont des traces de particules ou des traces de composants chimiques. C'est pas quelque chose qui va apporter beaucoup de réponses. Par contre, et c'est là où cette dualité imaginaire-réel est importante, c'est que cette découverte va pouvoir donner à des créateurs, artistes, auteurs de bandes dessinées, romanciers, cinéastes, l'envie d'édulcorer tout ça, de rendre cet imaginaire beaucoup plus palpable, beaucoup plus anthropologique, beaucoup plus humain finalement. Parce qu'une substance sur une planète qui a des millions d'années-lumière, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi en tant qu'individu. Par contre, si cette image va commencer à être reprise par des créateurs, et puis qu'elle va commencer à donner lieu à des récits où je suis concerné, alors on va dire directement, hein. Alors soudainement, cette image commence à devenir un peu plus humaine, un peu plus intéressante, parce que plus émotionnelle aussi, hein. Faut pas oublier qu'une substance chimique, c'est pas très émotionnel, mais ce qu'il y aurait autour de la substance chimique pourrait le devenir. Et c'est là où nos fantasmes sont en permanence projetés.
Françoise Keuten, il y a eu Jules Verne, plus tard Hergé, maintenant vous aussi, vous êtes dans ce fil de raconteur, justement. Ces auteurs que j'ai cités ont toujours tenu à se documenter très sérieusement pour nourrir leur fiction. En fin de compte, les auteurs de fiction sont aussi des scientifiques eux-mêmes dans l'âme.
Oui, enfin, c'est vraiment la tension pour essayer de se nourrir de choses extrêmement réelles, extrêmement crédibles, qui permettent de faire en sorte que le public rentre dans les récits, y croit. Ce travail-là, il a toujours existé. Et je trouve que, par exemple, ce qui m'effraie le plus, c'est les dessins qui, justement, ne sont pas dans cette obsession de chercher le crédible. Surtout quand on est dans des domaines de science-fiction ou de fantastique, notre obsession, c'est qu'on y croit. Et dès lors, il faut faire un très très gros travail pour que chaque détail, chaque micro-détail même soit le plus vrai, c'est qu'on ait le sentiment qu'il existe, qu'on pourrait le toucher. Et c'est ça qui rend, je dirais, le travail d'auteurs comme Hergé ou comme Jules Verne absolument passionnant, c'est qu'on sent qu'ils ont été jusqu'au bout. Ils ont tous les scientifiques qu'ils pouvaient contacter, ils les ont joints. Il avait d'ailleurs, Hergé avait des amis dans ces domaines parce que tellement qu'il était en contact intime avec eux.
C'est aussi votre souci, on l'a vu avec la série Les Cités Obscures, vous racontez ce monde parallèle où il y a toute une série de villes, il y a des immeubles. En fin de compte, c'est un monde parallèle qui ressemble étrangement à la planète Terre. On n'est pas si éloigné que ça. C'était vraiment important pour vous.
Oui, parce que j'aurais du mal justement à uniquement travailler sur ce mot imaginaire, qui est un mot magnifique, mais un mot extrêmement dangereux, parce qu'en un sens, il peut nous faire croire que on pourrait se suffire de notre propre vision, de notre propre capacité à inventer. Or, en fait, on n'invente rien. On ne fait que recycler, qu'organiser un matériau qui se doit d'être justement d'être lisible. On doit le comprendre, le détecter et le décortiquer et le transformer. Et plus on en est conscient, plus ce travail est passionnant. Le danger, c'est d'être dans l'illusion d'inventer.
Marc Attala, on le voit bien, là on parle d'espace, tout de suite je pense qu'on est plusieurs à avoir les yeux grands ouverts, à commencer à rêver. Il y a l'infiniment grand qui ouvre énormément de possibilités, qui est source de fantasmes. On explore aussi l'infiniment petit qui pourrait livrer beaucoup de secrets sur notre existence. Mais là, en revanche, l'infiniment petit, c'est moins facile de s'y projeter.
Alors, je ne sais pas si c'est moins facile de s'y projeter. Ce qui est sûr, c'est que les découvertes qui ont été faites au XXe siècle, principalement de l'infiniment petit, on pense à la physique quantique, etc., sont des domaines qui sont difficiles qui ne permettent pas la représentation. C'est quand même des domaines où, justement, la représentation pose problème. Alors, évidemment, il y a eu quelques tentatives dans la science-fiction d'aller dans l'infiniment petit. Vous vous rappelez peut-être de ce film qui s'appelait Le Voyage intérieur. Mais c'est quelque chose qui est moins intéressant parce que, justement, comme l'a dit très bien Françoise Keuten tout à l'heure, la science-fiction, on doit y croire. Alors si ça se passe à une échelle microscopique, on ne peut pas raconter grand-chose, si ce n'est un virus qui se propage à un niveau microscopique ou alors des espèces de petits robots, des nanorobots qui viendraient contaminer l'espace. C'est assez réduit. Alors que l'espace, le cosmos, est quelque chose qui d'une part est une source de mythologie, d'ailleurs il y a pas mal d'astrophysiciens ou de gens qui étudient la cosmologie qui disent que l'astrophysique, c'est une forme de mythologie contemporaine. Parce qu'on ne fait pas une expérience directe, vous voyez, vous avez quand même des espèces d'appareils de mesure qui expérimentent des choses qui sont soit disparues, qui vont être recolorées pour que ça paraisse un peu plus attrayant, je pense aux particules, aux galaxies, etc. Donc on est dans une forme où l'imaginaire humain a déjà été projeté. Et ça rend la chose beaucoup plus intéressante parce que de l'espace peut arriver beaucoup de choses, alors que de l'infiniment petit peut pas arriver grand-chose. C'est peut-être pour ça qu'on a une fascination pour la bordure extérieure, disons, et pas tellement pour la bordure intérieure.
En quelques mots, pour terminer, Françoise Keuten, vous êtes auteur de BD, mais d'autres arts peuvent aussi dialoguer avec la science.
Oui, c'est vrai que j'expliquais que j'étais sur des projets qui sont aussi des explorations, qui ne sont pas des explorations spatiales, mais des explorations archéologiques, temporelles. Comme ça, on entre dans notre histoire. Et je travaille sur la Grande Pyramide et sur une exploration là, grâce à des nouvelles technologies pour scanner, pour traverser, pour regarder à travers les murs, les pierres, avec ce projet Scan Pyramide qui grandit et qui va peut-être nous permettre de découvrir des choses extraordinaires.
Et j'espère qu'on aura l'occasion justement de vous réentendre à ce sujet. On doit clore cette discussion-là. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Françoise Keuten et Marc Attala. Je vous souhaite une excellente soirée à vous deux.
Bonne soirée.